Merci beaucoup d'être branché à l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis maintenant avec Sylvain Berrios. Bonjour.
Bonjour.
Candidat avec Adrien Caïrez du parti Les Républicains pour les élections législatives du 30 juin et 7 juillet prochain pour les communes de Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Créteil-Nord et Saint-Maur-des-Fossés, autrement dit la première circonscription du Val-de-Marne. Sylvain Berrios, votre parti est-il mort ? Je cite ici votre ancien collègue Aurélien Pradier.
Alors, en tout cas, LR, si on parle du parti, il est plutôt mal en point. Moi, je suis candidat avec LR et le soutien d'Horizon. Et c'est la seule circonscription en France où, d'ailleurs, Édouard Philippe et Gérard Larcher ont choisi de soutenir un candidat dans une optique du plus large rassemblement. Et c'est ça qui est important. On doit tâcher de construire une nouvelle majorité qui rassemble au-delà des petites boutiques partisanes. Mais si on considère LR et l'affaire Ciotti, on peut considérer que les LR ne sont pas dans une posture brillante, c'était votre question.
Mais cette dissolution a-t-elle signé la disparition du parti ?
Non, la dissolution a signé la disparition de la majorité présidentielle. Le président de la République a dissous sa propre majorité relative. Il s'agit maintenant de reconstruire une nouvelle majorité. C'est ce que je m'attache à faire avec Édouard Philippe, avec Gérard Larcher, avec François-Xavier Bellamy, avec tous ceux qui sauront se réunir au-delà de leur petite boutique pour essayer de produire une nouvelle majorité avec plus d'ordre dans le pays, de l'ordre dans les comptes publics, de l'ordre dans l'Assemblée nationale, et puis donner un peu d'espoir et d'espérance quand même à tout au pays qui est fracturé.
Vous l'avez dit, vous êtes soutenu par le mouvement Horizon d'Édouard Philippe et par le président du Sénat Gérard Larcher qui a déclaré hier dans Le Parisien que Macron ratatine la démocratie. Vous êtes d'accord ?
C'est-à-dire qu'une dissolution normalement est là pour résoudre une crise politique et lui, il a réussi à dissoudre pour créer une crise politique. On peut considérer que le président Macron a commis une faute grave et une faute grave contre notre démocratie et même ses institutions et les principes et l'esprit même des institutions. Bon, maintenant il faut avancer, trouver des solutions et moi c'est ce à quoi je m'attache pour créer une nouvelle majorité susceptible de gouverner le pays, en tout cas d'être une force de proposition suffisamment forte pour faire entendre de l'espoir et des nouvelles solutions pour le pays.
Et quelles sont vos solutions, justement ?
Il faut commencer par apaiser. Vous savez, moi je suis maire de Saint-Maur, je suis un élu de terrain. Commençons déjà par apaiser le pays qui est absolument fracturé. Moi je suis un maire du quotidien, chacun me connaît. D'ailleurs à Radio Alpha, vous me connaissez bien, il y a la communauté portugaise à Saint-Maur qui est extrêmement importante, avec laquelle on travaille bien, et il faut et avec laquelle on vit bien. Il faut que tout ça soit apaisé. Il faut d'abord une France apaisée, réconciliée. Et c'est pas en expliquant, par exemple, que les binationaux ne pourront plus travailler ou obtenir des emplois qu'on va s'en sortir. Les binationaux, c'est 3 millions de personnes, et ça touche précisément, par exemple, dans ma circonscription, la communauté portugaise. Il faut quand même être lucide sur les choses. Il faut nous apaiser. Une France apaisée, réconciliée, comme à Saint-Maur, où on vit bien, et on vit bien tous ensemble dans la prospérité et le respect de chacun. Et c'est ça qui est important. C'est la première chose. Le reste viendra de surcroît. Mais le pays est fracturé, avec une extrême gauche qui est avec un antisémitisme latent et qui promet le chaos. Et je pense vraiment que l'on doit se mobiliser pour apaiser le pays. Il y a une force d'apaisement, et c'est celle que j'aspire à représenter avec Édouard Philippe et Gérard Larcher.
Dans votre tract de campagne, vous appelez justement à faire barrage à l'extrême gauche.
Oui, parce que en France, les extrêmes sont très hauts, mais nous, dans notre circonscription, dans la circonscription des Bords de Marne, donc qui rassemble Bonneuil, Champigny, Créteil et Saint-Maur, c'est l'extrême gauche qui arrive en tête au soir des élections européennes avec un score de 43%. Rassemblés autour de LFI. Alors, en plus, LFI nous a envoyé effectivement un candidat LFI qui habite à Paris. D'ailleurs, aucun des candidats dans la circonscription n'habite la circonscription à part moi. C'est quand même intéressant de savoir que l'implantation locale n'est pas la priorité des uns et des autres. Or, moi, je pense que l'implantation locale est précisément la priorité parce que ça évitera de faire des bêtises à l'Assemblée nationale et d'avoir des députés hors sol. Mais dans notre circonscription, le risque est un risque d'extrême gauche.
Comment jugez-vous la stratégie du camp présidentiel qui cherche à dramatiser la situation actuelle en évoquant les risques de cette élection ? Cette dramatisation qui va grosso modo jusqu'à un président de la République qui affirme « moi ou la guerre civile ».
D'abord, c'est curieux qu'un président de la République puisse affirmer qu'il y aura une guerre civile. Le mot Et le mot est dur pour ceux qui connaissent les guerres civiles dans des pays dans le monde. Il faut quand même mesurer les propos. Et ensuite, on peut pas à la fois dissoudre en expliquant pour la République à dissoudre en expliquant qu'il allait comment créer une situation de clarification. Et puis sitôt la campagne engagée, dire que ce sera la guerre civile. La vérité, c'est que la légitimité des urnes est intacte. Et donc, il faut respecter la légitimité des urnes. Et le président de la République aurait aujourd'hui intérêt, comme ses amis lui demandent, de cesser d'intervenir pour dire tout et son contraire. En même temps, a sonné le glas de notre pays avec une fracturation multiple. Soyons raisonnables, ce ne sera pas la guerre civile. Dire ça est une deuxième faute politique. Grave.
Vous parliez à l'instant des extrêmes. Est-ce que l'association des deux extrêmes, Nouveau Front Populaire d'un côté et Rassemblement National de l'autre, n'est-elle pas au mieux une erreur, au pire un argument fallacieux? Et surtout, question corollaire, cette confusion n'est-elle pas délétère? Peut-on véritablement associer la gauche et l'extrême gauche, le Nouveau Front Populaire, à l'extrême droite?
Moi, j'associe pas l'un et l'autre. Et encore une fois, chacun a ses vices et ses vertus. Moi, je connais les vices et les vertus des uns et des autres, et j'associe pas l'un et l'autre. Et surtout, moi, je pense qu'il y a la voie pour une France plus apaisée, plus responsable. La colère doit être entendue. Moi, je suis maire, et au quotidien, je travaille sur le terrain. Et évidemment que ça fait longtemps que l'on sent cette colère monter partout. Moi, je me bats à sa mort pour avoir une ville apaisée, où précisément on soit capable d'écouter les uns et les autres, de se respecter et de travailler ensemble. Et je pense que ce travail-là que les maires font au quotidien, on doit pouvoir le produire au niveau national. Et il y a une voie qui n'est pas celle des invectives, du chaos ou de la radicalité. Je pense que la colère doit être entendue, on doit y apporter une réponse, et la réponse doit être apportée avec raison. Et le président de la République ne nous aide pas en l'occurrence.
Sylvain Berrios, dans le cas d'un second tour, candidat RN face à un candidat NFP, pour qui appelez-vous à voter?
Second tour, j'appelle pour moi. Parce que je serai au second tour, et à ce moment-là, les choses seront dites, et je pense que je serai au second tour. Enfin, c'est ce que donnent les différentes études. Je serai au second tour contre le candidat de LFI, et on aura donc à faire un barrage à l'extrême gauche.
Les Républicains non alignés avec le RN, dont vous êtes Sylvain Berrios, misent sur les entreprises pour augmenter les salaires. Votre parti espère rapprocher le salaire net du salaire brut en baissant les cotisations sociales. Mmh. Est-ce que ça fonctionne vraiment, miser sur les patrons pour augmenter les employés?
De toute manière, si on veut augmenter le pouvoir d'achat, il n'y a pas 36 solutions. Alors, d'abord, il faudrait éviter d'avoir une hausse des impôts. Je vous rappelle simplement que le Front Populaire et les Fistes indiquent qu'il n'augmentera pas les impôts, mais dans son programme, il est indiqué qu'il y aurait une CG progressive. Ça signifie que tous les salariés, y compris les plus fragiles, verront leurs impôts augmenter, parce que la CSG, tout le monde la paye. Et moi, je considère que si on veut augmenter le pouvoir d'achat, il faut pouvoir augmenter les salaires. Pour augmenter les salaires, les chefs d'entreprise ne peuvent pas le faire dans un claquement de doigts. Et donc, il faut qu'ils puissent créer la valeur. En tout cas, ne pas en détruire. Baisser les charges, c'est permettre aux entreprises d'augmenter les salaires. Il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir lutter contre une perte de pouvoir d'achat, ou plutôt pouvoir progresser dans le pouvoir d'achat. Et de toute manière, ce qui pèse sur les salaires aujourd'hui est insupportable. Aujourd'hui, si on veut augmenter de 100 euros un salarié au SMIC, en réalité, le chef d'entreprise doit débourser 360 euros au regard des charges salariales. Il faut faire un effort, c'est un effort important, mais on doit le faire. La baisse des charges sur le travail, ça permet de rémunérer le travail, rémunérer ceux qui travaillent tous les jours. Et c'est important, oui, c'est la solution.
Mais les Républicains promettent également une baisse des impôts.
Oui.
Donc on baisse les cotisations sociales et on baisse les impôts.
Bien sûr qu'il faut baisser les impôts. Bien sûr. Moi, à Saint-Maur, ça fait maintenant plus de presque 10 ans, 8 ans que je n'ai pas augmenté les impôts. Je les ai même baissés par ailleurs, notamment sur ces différentes taxes locales. C'est important de ne pas considérer l'impôt comme une variable d'ajustement. À Saint-Maur, moi, j'ai maîtrisé ma fiscalité et j'ai baissé ma dette. Ça signifie que c'est possible de le faire avec un budget équilibré. Et ben, la France doit remettre de l'ordre dans ses comptes publics, baisser les impôts et baisser la dette. Oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. D'autres l'ont fait. Le Portugal l'a fait.
En termes de fiscalité, de finances publiques, c'est tenable de baisser des cotisations sociales et de réduire les impôts.
Le Portugal l'a fait.
Les socialistes.
Mais peu importe. Ça veut dire, mieux encore, ça signifie que c'est possible, les socialistes, avec un président de droite. Vous voyez que je connais bien l'un et l'autre. Mais ça signifie que c'est possible. C'est possible. Et ce qui a été fait au Portugal, je pense qu'on est capable de le faire en France. Et que si on peut prendre un exemple, prenons un exemple vertueux. Et je pense que c'est utile. Et c'est possible. Il faut renoncer à toujours plus taxer, toujours plus s'endetter et toujours plus fiscaliser à la fin. C'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Il faut être raisonnable. Aucun d'entre nous, dans nos familles, nous faisons ça. Ce qu'on peut pas faire pour nos familles, on peut pas le faire pour l'État. C'est pareil.
Concernant l'immigration, thème central de cette bataille législative, quel est votre projet de société ?
L'immigration, c'est Nicolas Sarkozy qui disait ça, qu'on était qu'au début des flux migratoires, au regard d'abord de la pauvreté dans le monde, au regard des changements climatiques, il y a des grandes migrations. Notre problème de migration en France, c'est notre impossibilité à la contrôler. Et la première chose que l'on doit mettre en place, c'est le contrôle, être capable de contrôler et de ramener chez eux ceux qui sont sur le sol illégalement. Je pense souvent, on a appelé ça des mineurs isolés, maintenant ils appellent les mineurs non accompagnés, qui arrivent en France et qui finissent par être exploités par des réseaux, parfois de prostitution, parfois des réseaux mafieux, parfois des réseaux de drogue. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est que lorsqu'on ne contrôle pas son immigration, qu'on n'est pas capable de la contrôler, de ramener à la frontière ceux qui ne doivent pas être dans le pays, on se retrouve avec des situations irrégulières, et ces situations régulières créent des situations ensuite de délinquance. Ce n'est pas l'immigration qui est délinquante, c'est les conditions d'accès et notre incapacité à la contrôler qui rend la délinquance finalement obligatoire pour ceux qui sont là. Nous devons contrôler l'immigration. C'est quand même pas incroyable comme choix. D'autres pays, là aussi, l'ont fait. Ce n'est pas un scandale de dire qu'on a besoin de travailleurs immigrés pour travailler sur le sol français parce que on a des emplois qui sont nous pourvus. Mais c'est pas non plus un scandale de dire que ceux qui n'ont rien à faire sur le sol français doivent être reconduits. On ne rentre pas en France ou en Europe comme on rentre dans un tas de gruyères. Ça peut pas être un appel d'azimut. On doit contrôler tout ça. Et c'est une question d'équilibre. Voilà.
Une des caractéristiques du parti Les Républicains est que vous avez de moins en moins de militants, mais toujours pour le moment beaucoup d'élus. Comment comptez-vous gérer ce déséquilibre sur le long terme ?
Bon, d'abord, je ne sais pas si les Républicains ont moins ou moins de militants. Il y a toujours un socle relativement solide.
La plupart des militants des Républicains se font inspirer par le bloc central du camp présidentiel et par l'extrême droite.
Il y a peut-être les électeurs, mais on a toujours. Aujourd'hui, je pense que Les Républicains est le parti qui a le plus grand nombre de militants en nombre. Il y a une crise de toute manière dans tous les partis politiques. Moi, je vois bien, je suis maire. Pour tenir les bureaux de vote, il faut des assesseurs des différents partis politiques. Le Rassemblement National, qui n'a même d'ailleurs sa candidate, on ne sait même pas où elle est, on l'a jamais vue, n'est pas capable de donner plus de 4 assesseurs, je crois. La République, Renaissance, je crois, on donne quelque chose comme 17, alors qu'il en faudrait en réalité 200. Et Les Républicains en donnent beaucoup plus. Donc. C'est pas le sujet du militantisme est un sujet qui s'offre à chacun d'entre nous. C'est aussi un sujet d'ailleurs de citoyenneté. Mais pour pouvoir avoir un grand parti populaire, il nous faut d'abord un grand projet populaire. Et pour avoir un grand projet populaire, il nous faut une France apaisée qui rassemble et qui donne une espérance, notamment d'ailleurs à la jeunesse, qui ne peut pas être dans une situation de choisir entre des maux ou entre des situations extrêmes où on lui promet tantôt une grande vague migratoire qui finira par l'absorber ou d'autres qui lui promettent un réchauffement climatique qui finira par les griller. Moi, je pense qu'il y a d'autres espérances à porter avec cette jeunesse, d'une France apaisée, d'une France progressiste qui prenne en compte les enjeux environnementaux, des enjeux migratoires, des enjeux économiques, des enjeux de bien vivre ensemble. Une France apaisée. Je pense que c'est possible.
Et justement, l'écologie n'est-elle pas la grande oubliée de cette campagne ?
Pas à sa mort.
Racontez-nous.
Bah, à Saint-Maur, vous savez que moi, je fais partie de ces maires qui se battent énormément à la fois pour préserver la rivière, pour préserver la pleine terre, les arbres et un environnement protégé. Et Saint-Maur est une ville protégée. Et je sais que Laurent Jeanne, à Champigny, partage ce point de vue-là. Et il essaye de travailler à ce cadre de vie apaisé, qui permet d'ailleurs de lutter efficacement et concrètement contre les réchauffements climatiques. Mais oui, vous avez raison, dans le chaos qui est le nôtre, finalement, il y a des grandes discussions et des grands enjeux qui partent, c'est-à-dire qui sont partis, qui ont été oubliés. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la réponse des différents partis sur le nucléaire est assez curieuse, puisque certains voudraient remettre le nucléaire en cause. Je vous rappelle quand même que ça a été un des éléments importants de la hausse des coûts de l'énergie. Et donc, quand l'extrême gauche, le Parti populaire et LFI expliquent qu'ils vont réduire la part du nucléaire, ça signifie qu'ils vont augmenter la facture d'énergie. C'est quand même ça la réalité. Quant au commandement Rassemblement National, on peut pas considérer qu'ils étaient très clairs sur les enjeux environnementaux. Et quant aux autres partis, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui dans l'ambition nationale pour l'environnement une faiblesse de l'engagement et même une faiblesse au regard des actes que nous avons à poser nationalement. Et je pense que sur les sujets notamment énergétiques, sur le sujet de l'eau, sur le sujet des polluants éternels, on doit être capable de trouver un accord consensuel. On ne peut pas considérer aujourd'hui que la France soit à la hauteur des enjeux.
Concernant un autre sujet, le sujet de la santé, le Parti Les Républicains dit que pour mieux rémunérer les professionnels du soin, il faut lutter contre la fraude fiscale. Le Parti LR prévoit de lutter contre la fraude fiscale. Comment allez-vous procéder ?
Lutter contre la fraude fiscale, c'est d'abord veiller à ce que les cartes qui permettent d'accéder, donc les fameuses cartes vitales, ne soient pas en libre circulation ou librement dupliquées. C'est quand même le point essentiel. Quant aux déserts médicaux, c'est un sujet. Alors peut-être. Encore une fois, dans ma circonscription et à Saint-Maur, on nous fait beaucoup de travail pour que chacun puisse avoir un accès à la santé à portée de marche, ou en tout cas dans la ville. Mais c'est vrai que un peu partout en France, on se rend compte que le sujet de l'accès aux soins est un sujet fondamental. Lorsqu'on est en Normandie, qu'il faut 1h15 pour aller à Caen, à l'hôpital, c'est un problème. Et lorsqu'on vous explique qu'en plus le plein est très cher, ou que faut pas on va vous sanctionner parce que vous avez une voiture diesel, tout ça devient très compliqué. Et donc le désert médical, en fait, symbolise la faillite aujourd'hui d'une large partie du service public. Et la restauration des services publics, c'est la restauration du service public de la santé, mais également de la justice, de l'éducation nationale, doit être au cœur d'une France réconciliée. C'est par là qu'on réussira à réconcilier notre pays, à nous réconcilier, chacun d'entre nous. Chacun a droit à porter, sinon de marche, en tout cas de transport, d'avoir un accès aux soins, mais aussi d'avoir accès à l'école, et aussi d'avoir accès à la culture, au sport. C'est des conditions de réconciliation et d'apaisement du pays.
Vous portez donc la voix d'une France réconciliée, la voix de la raison, de l'équilibre, mais n'est-ce pas déjà cette voix que porte Gabriel Attal ?
Gabriel Attal porte la voix du président de la République qui a dissous l'Assemblée nationale et créé une crise politique sans précédent. Donc voilà, Gabriel Attal, j'ai beaucoup de respect pour Gabriel Attal que je connais.
Mais donc quelle différence si ce n'est l'exercice du pouvoir ?
Mais Gabriel Attal est Premier ministre pour combien de temps encore ? Pour combien de temps encore Gabriel Attal est Premier ministre ? C'est le Premier ministre d'un président de la République qui a créé une crise sans précédent et dont l'une des conséquences sera le départ de Gabriel Attal. Quelle que soit l'amitié que j'ai pour Gabriel Attal, que je connais très bien parce que on a travaillé par ailleurs ensemble, il n'en demeure pas moins que Gabriel Attal, je connais bien, c'est un ami, mais ceci dit, au lendemain de l'élection législative, Gabriel Attal ne sera plus Premier ministre. C'est ça la réalité. Donc l'exercice du pouvoir se fera dans une autre logique. Il y aura une autre majorité à l'Assemblée nationale et moi je souhaite qu'on recrée une majorité avec Édouard Philippe, avec Gérard Larcher, avec tous ceux qui le veulent bien. Je pense qu'il y a la place pour une voix raisonnable, une voix raisonnée, mais une voix aussi ferme pour mettre de l'ordre dans le pays, de l'ordre dans les comptes publics et de l'ordre à l'Assemblée nationale qui créera un respect et une France apaisée.
Comprenez-vous l'avis de votre collègue François-Xavier Bellamy de préférer un bulletin Rassemblement National à celui de l'Union des Gauches?
Moi, je comprends la logique qui est celle de François-Xavier Bellamy. Mm-hmm. Il a des convictions fortes, il n'a pas quitté LR. Et donc, il assume pleinement, et c'est quand même une question forte, parce que il faut reconnaître que les outrances de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, crée une inquiétude aujourd'hui et un risque de chaos aujourd'hui que tout le monde connaît bien. Et on voit ce que la France insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon, a voulu faire à l'Assemblée nationale. Ils ont voulu créer, pardonnez-moi l'expression, mais la bordélisation, la zadisation de l'Assemblée nationale. Et ils l'ont assumé ainsi. On ne peut pas, quand on est un responsable politique, conduire les choses pour diviser artificiellement, politiquement, ou en tout cas ne pas tenter de convaincre le plus grand nombre. On peut pas monter les uns contre les autres. C'est irresponsable parce que c'est faire mal au pays. Et donc, moi, je comprends parfaitement François-Xavier Bellamy qui fait le choix qui n'est pas celui du chaos ou de l'antisémitisme latent. Il faut, à un moment donné, être en situation de prendre ses responsabilités. Chacun les prendra au soir du premier tour. Mais moi, je comprends François-Xavier Bellamy.
Mais donc ici, vous associez systématiquement le NFP à la FI?
Il se trouve que dans ma circonscription, c'est le cas. Il se trouve que dans le Val-de-Marne, c'est le cas. Il se trouve qu'en Ile-de-France, c'est le cas. Donc moi, je suis un élu de Saint-Maur, un élu du Val-de-Marne, un élu d'Ile-de-France.
Mais appelé à être un élu de la République.
Oui, appelé à être une république, mais il faut aussi de la cohérence. Et je pense qu'on souffre beaucoup de cette incohérence, de tout le monde veut faire du en même temps. Lorsqu'on est à la France populaire ou au Front populaire, on va de Monsieur Philippe Poutou à François Hollande. Et quelle est la cohérence? La vérité, c'est que au lendemain du premier tour, au lendemain du second tour des élections législatives, tout le monde sait très bien que cette gauche-là va exploser. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que jamais François Hollande n'acceptera de siéger à côté de Poutou. Ça signifie que l'hypothèse même d'avoir un gouvernement du Front populaire n'existe pas. Ça n'existe pas.
Oui, mais la cohérence du NFP est de faire barrage à l'extrême droite.
Mais ça suffit pas. C'est pas une cohérence suffisante. Le sujet est de gouverner la France. Le sujet est d'avoir un projet pour la France. Le sujet est de proposer un espoir, une espérance. C'est pas d'être candidat pour être sûr que l'autre ne le soit pas. C'est pas ça. On peut pas raisonner comme ça.
Mais l'extrême droite est-il un candidat comme un autre?
Mais si oui, l'extrême droite, en tout cas le Rassemblement National, est candidat à des élections. Si demain le Rassemblement National remporte des élections, il aura une légitimité démocratique. Il siège aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il faut pas faire comme si ce n'était pas le cas. Ou alors on interdit le Front National, on interdit là. Il y a un débat démocratique qui s'exerce. Moi, je considère que il est incohérent de vouloir rassembler des gens aussi dissemblables. Et quand on rassemble M. Poutou et M. Hollande, au mieux, on rit. Et au pire, on se dit, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Je rappelle simplement que François Hollande n'a pas pu se représenter à cause de frondeurs qui n'étaient pas aussi à gauche que M. Poutou. Imaginez maintenant la situation. Il faut être quand même un peu raisonné, un peu responsable, un peu cohérent. Et je pense que c'est dans la cohérence et la vérité qu'on trouvera le chemin.
Aurélien Pradié a-t-il été responsable en quittant le parti Les Républicains?
D'abord, il n'a pas quitté les partis républicains, il est toujours LR, il a monté son propre parti, mm-hmm. Courage.
Bon, moi, justement, de quel œil voyez-vous cette initiative politique qu'il va lancer en octobre?
Je pense que si tout le monde monte sa boutique, on finira boutiquier. Bon, voilà, chacun aura sa petite boutique, sera sympathique pendant le temps de la législature, et puis on n'ira pas beaucoup plus loin. Moi, je pense qu'il faut commencer par faire campagne, ensuite, il faut gagner sur un projet clair, et puis les conditions du rassemblement plus large, d'une union plus large de la droite et du centre, trouvera, et Aurélien Pradé aura naturellement, avec son talent, une place à jouer. Mais s'il commence par ouvrir une boutique, celui qui est en face ouvrira également sa boutique. Et je pense qu'il ne sert pas aujourd'hui dans ce propos-là son camp. Mais bon, c'est son choix.
Vous souhaiteriez ouvrir la vôtre?
Non.
De boutique un jour?
Non, non. Non, moi je m'inscris dans un très large rassemblement d'union, entre Édouard Philippe, Gérard Larcher, tous ceux qui le souhaitent, et je contribuerai à ça. Moi je suis issu de la démocratie chrétienne. Donc je ne suis pas, et j'ai toujours œuvré pour plus large rassemblement de la droite et du centre. Et donc je continuerai, je n'ouvrirai pas une boutique, je suis pas un boutiquier, je suis un rassembleur. Et d'ailleurs, dans ma circonscription, il se trouve que je suis celui qui rassemble le seul qui peut le faire en réalité, mais qui rassemble le plus largement possible. Les élus locaux, hein, Laurent Jeanne, le maire de Champigny, me soutient, tous les élus, 84 élus, qui viennent de Renaissance, du Modem, de LR, de Horizon, de tous les partis de la droite et du centre me soutiennent. J'ai réussi et je suis le seul en France à avoir réussi à avoir le soutien et d'Édouard Philippe et de Gérard Larcher. Je suis dans cette logique du rassemblement le plus large pour remettre de l'ordre dans le pays pour une France apaisée. C'est ça mon chemin.
L'antisémitisme est malheureusement un thème central aussi de ces élections. Que voulez-vous dire à nos compatriotes juifs ?
L'antisémitisme est un thème central, en fait, aujourd'hui, j'allais dire, dans le monde, parce qu'on oublie à la fois de dire des choses et d'autre part d'agir. On oublie de dire que, et de, en tout cas suffisamment clairement, que Israël est un allié de la France. Et à un allié, on lui doit la solidarité. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que ça plaise ou pas à Monsieur Mélenchon, le Hamas n'est pas un allié de la France. C'est un adversaire de la France. Israël est un ami de la France, c'est un allié. Donc sauf à reconsidérer les alliances stratégiques françaises, y compris avec les Américains, on doit la solidarité à Israël. Pas une solidarité aveugle, mais on doit une solidarité à Israël. C'est un pays ami. La deuxième chose, on doit répondre aussi par des actes. Lorsque on voit ce qui s'est passé à Courbevoie avec le viol, le crime odieux qui a été fait sur cette jeune fille avec des enfants de 12, 13 et 14 ans à qui on a réussi à mettre dans le crâne que l'antisémitisme qui porte cet antisémitisme avec autant de violence et j'aime dire de sauvagerie, on peut s'interroger sur sur la façon dont on a réussi à transmettre notre histoire et nos valeurs. Et par exemple, moi, à sa mort, je veille à ce que chaque année, je puisse emmener des enfants sur le site d'Auschwitz pour qu'ils puissent toucher du doigt ce qui a été la plus grande horreur de notre histoire contemporaine. J'emmène des enfants à Isieux. La ville de sa mort est marraine d'Oradour-sur-Glane, une ville martyre de la Seconde Guerre mondiale. J'emmène des enfants là-bas. Il faut répondre concrètement. Il ne s'agit pas d'être prosélyte, il s'agit simplement de rappeler que notre histoire n'est pas celle de l'antisémitisme. En tout cas, ce n'est pas la mienne. Et ce n'est pas celle que je souhaite. Et ce n'est pas celle que je souhaite transmettre. Voilà. On a besoin de paroles fortes, mais aussi on a besoin d'actes. Et aujourd'hui, l'antisémitisme se porte pour certains en bandoulière, d'autres se portent en cartouchière. En bandoulière, c'est l'antisémitisme politique qui aujourd'hui est représenté, hélas, par une faction de cette gauche extrémiste. Et puis, en cartouchière, eh bien, il y a des gens qui sont prêts à tuer pour ça. C'est pas acceptable.
Sylvain Berrios, ce sera ma dernière question. Quelle conception avez-vous du peuple ?
Ah, en France, le peuple est souverain. Et d'ailleurs, l'Assemblée nationale a toujours le dernier mot, comme on dit, précisément parce que nous représentons le peuple français. Et c'est l'essence même de notre démocratie. Et donc, ma conception, c'est que le peuple doit être écouté dans son espérance, comme dans ses colères, dans son affection, comme dans son désamour. Mais le peuple est aujourd'hui, et demain, j'espère, la source de notre démocratie. Voilà. Et j'espère, parce que je l'ai vécu à sa mort, je ne sais pas si c'est possible dans les tirages, mais qu'on aura des beaux matchs à l'Euro quand même. Je me rappelle d'un France-Portugal et à sa mort, ça avait été quelque chose d'exceptionnel.
Un 10 juillet 2016, je suppose.
Par exemple, je l'ai encore à travers de la gorge, mais mes amis l'ont encore dans l'espoir, donc j'espère, et je souhaite au Portugal comme à la France un chemin jusqu'au bout.
Qui se rencontreront peut-être en quart de finale,
absolument,
d'ailleurs.
Absolument. Et nous aurons à sa mort une immense fête à cette occasion.
Sylvain Berrios, candidat avec Adrien Cayrès du parti Les Républicains en union avec Horizon pour les élections législatives du 30 juin et 7 juillet prochain pour les communes de Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Créteil-Nord et Saint-Maur-des-Fossés. Autrement dit, la première circonscription du Val-de-Marne. Merci beaucoup Sylvain Berrios.
Merci à Radio Alpha, merci à tous.